RFI.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La guerre ou la pauvreté les chasse hors de leurs frontières, de Syrie, d'Afrique, d'Ukraine. Des centaines de milliers de personnes viennent en Europe chercher refuge au péril de leur vie. Reportage aujourd'hui dans Accent d'Europe en Suède qui accueille tous les réfugiés syriens qui arrivent sur son territoire et dans le sud de la Russie où affluent des Ukrainiens de l'Est chassés par les combats.
Never stop fighting.
Face à la guerre en Syrie, la Suède a pris des dispositions inédites dans une Europe qui cherche plutôt à fermer ses frontières et à restreindre le droit d'asile. Depuis 2013, tous les Syriens qui arrivent sur le sol suédois se voient accorder le droit d'asile et le droit de s'installer durablement dans le pays. L'an dernier, 80 000 Syriens ont donc saisi cette opportunité. Il devrait être 90 000 cette année, peut-être 100 000 l'année prochaine. Pour certaines communes, surtout dans le sud du pays, qui accueillent la majorité de ces réfugiés, les problèmes d'intégration et d'infrastructure commencent à se faire sentir. C'est le cas à Södertälje, une ville de banlieue du sud de Stockholm, et c'est le reportage de Pauline Curté.
Voilà 3 mois, Zouer et Yam ont posé le pied pour la première fois de leur vie sur le sol suédois. Ces deux réfugiés syriens, proches de la retraite, ont tout de suite su où aller. La petite ville de Södertälje, au sud de Stockholm. C'est là que vit leur fils unique et une bonne dizaine de membres de leur famille, sans compter aussi de nombreux amis. Zouer, qui était dentiste en Syrie, ne tarit pas d'éloges sur l'accueil que lui et sa femme ont reçu en Suède. La seule chose qui leur manque, c'est un logement.
We are very comfortable here.
C'est confortable ici. Pour le moment, nous partageons un appartement avec des membres de notre famille arrivés avant nous. Ce n'est pas très grand, mais on ne se plaint pas. Ça reste confortable. Avoir un canapé, un petit endroit où dormir, ça nous suffit. Mais bien sûr, ne plus avoir sa propre maison, c'est ce qui est le plus difficile à accepter.
Des réfugiés qui vivent à plusieurs familles dans des petits appartements, c'est de plus en plus courant à Södertälje. Dans les années 90, cette ville de 90 000 habitants a accueilli tour à tour des réfugiés des Balkans, puis des chrétiens victimes des guerres d'Irak et de Syrie. Aujourd'hui, près de la moitié des habitants de Södertälje sont d'origine étrangère. Il faut dire que le gouvernement suédois laisse les réfugiés libres de s'installer où ils veulent, pour peu qu'ils fournissent une adresse valide d'un proche. Résultat, en 2013, 1100 nouveaux réfugiés se sont installés dans la ville. Et en 2014, ce chiffre devrait encore légèrement augmenter. Sur place, la Fédération assyrienne de Suède, qui a sa propre église, son école et son centre culturel, se trouve de plus en plus démunie face à cette situation. Au point qu'Afram Yacoub, son président, cherche à décourager les nouveaux venus de s'installer à Södertälje.
Bien sûr, il est difficile de dire à ces personnes issues de notre propre communauté qu'elles ne sont pas les bienvenues. Mais il faut leur expliquer la situation délicatement et leur dire que s'ils restent ici, eh bien, ils ne trouveront pas d'emploi. Leurs enfants auront des problèmes à l'école, car ils n'apprendront pas bien le suédois. Ces réfugiés pensent que s'installer avec leur famille constitue une sécurité, mais en fait, ce n'est pas le cas.
Dans certains quartiers à la périphérie de Södertälje, on peut vivre sans difficulté en parlant l'arabe. Le suédois n'est plus nécessaire, sauf lorsqu'il faut trouver un travail. Actuellement, le taux de chômage de la ville est de 11%, bien plus que les 6% nationaux. Et il risque d'augmenter. Boel Godner, maire social-démocrate de Södertälje, défend la politique actuelle d'asile des réfugiés en Suède. Mais elle s'inquiète de voir sa ville en supporter presque tout le fardeau.
Depuis 10 ans, nous essayons de dire au gouvernement qu'une telle situation n'est plus acceptable. Personne ne devrait, par exemple, habiter dans un appartement où d'autres familles se sont déjà installées. L'Office des migrations devrait vérifier que les adresses sont valides. Pendant longtemps, on ne nous a pas écoutés. Mais depuis l'an dernier, les Suédois s'intéressent davantage aux réfugiés et ont donc découvert la situation de la ville. Peut-être que cela va nous aider.
Seule solution donc pour soulager la ville, encourager les réfugiés à aller construire leur vie dans une autre municipalité suédoise. Mais encore faut-il que ces villes fassent suffisamment d'efforts pour attirer ces nouveaux venus. Pour Anki Carlson, chargé des questions migratoires à la Croix-Rouge suédoise, ce n'est pas toujours le cas.
On a d'un côté les villes autour de Stockholm, par exemple, qui ne travaillent pas assez à l'accueil des réfugiés. Elles doivent en faire plus. De l'autre, on a des petites villes au nord de la Suède qui voient ces réfugiés comme une opportunité. Nous les encourageons à se rendre dans ces villes, à essayer d'y vivre pendant quelques mois au moins. Souvent, l'expérience se passe bien. Par exemple, j'ai parlé au téléphone voilà quelques jours avec un réfugié syrien habitant dans un village lapon. Il participe à la vie locale, a appris le suédois et se dit très soutenu par la population locale.
D'après différentes analyses, la Suède devrait accueillir plus de 100 000 réfugiés en 2015. Parmi eux, de nombreux musulmans fuyant les territoires sous contrôle de l'organisation de l'État islamique. À Södertalier, on se prépare à un nouveau défi, la cohabitation entre communautés chrétiennes et musulmanes.
Officiellement, un cessez-le-feu a été négocié entre Kiev et Moscou pour les régions séparatistes de l'est du pays. En réalité, les combats moins intensifs se poursuivent et les habitants fuient de plus en plus nombreux vers la Russie voisine. 387 000 personnes ont ainsi passé la frontière depuis le début du conflit, estime le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Des réfugiés pro-russes aux discours politiques radicaux qui espèrent pouvoir voter aux élections séparatistes de dimanche prochain, dans le sud de la Russie, près de Taganrog, Étienne Bouch est allé rencontrer des victimes en colère.
À une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, le centre aéré de Krasnidiesant, situé en bord de mer, accueillait encore cet été des enfants pour les vacances. Depuis septembre, il a été transformé en centre d'hébergement pour réfugiés ukrainiens. Plus de 300 personnes sont logées par famille dans les chambres de l'établissement et chaque jour il en arrive de nouvelles. Sur la porte du réfectoire, une liste avec des dates et des noms. Des départs vers les grandes villes du pays sont organisés pour ceux qui souhaitent rejoindre leur famille ou s'installer durablement en Russie. Pour Angelika Antsupova, la directrice des lieux, l'aide apportée à ces familles de l'est de l'Ukraine relève de l'évidence.
Nous avons tous de la famille ici et là, tant de liens les uns avec les autres. Nous sommes ici en zone frontalière, sauf que personne n'a jamais fait attention à cette frontière entre l'Ukraine et la Russie. Nous vivions comme dans un seul pays.
La perspective d'un cessez-le-feu avait suscité des espoirs après l'accord conclu entre le pouvoir ukrainien et les combattants autonomistes. Un certain nombre d'Ukrainiens du Donbass avaient pris le chemin du retour. Mais dans les faits, la situation est plus compliquée. Malgré la trêve, il y a eu des accrochages, des tirs de roquettes et des morts. Ivan vient d'arriver au centre. Il a quitté Lugansk et n'a pas l'intention d'y retourner.
Cela fait longtemps qu'on pensait déménager ici. On a hésité avec le cessez-le-feu, croyant que ça allait s'arranger, sauf que presque rien n'a changé.
La question de la trêve négociée entre les deux parties fait sortir de ses gonds Anastasia, qui a combattu auprès des insurgés à Donetsk.
En ce moment, on bombarde à Gorlovka. Et depuis 2 semaines, il y a des actions militaires. On tire même en pleine ville. Des gens meurent dans le centre. Il y a des victimes parmi les civils. Et sur les chaînes de télé, on parle de cesser le feu. Bravo!
Anastasia se présente désormais comme une citoyenne de la Nouvelle-Russie. Elle ne veut plus entendre parler de Kiev.
On a bombardé ma maison. Mais c'est pas grave, j'ai des bras, je la reconstruirai avec mon mari. Je n'ai besoin de rien venant du pouvoir ukrainien, pas de compensation, pas de promesses, je n'attends rien d'eux. Je veux simplement ne plus vivre avec eux, vous comprenez? Je ne veux pas.
Après plusieurs mois d'affrontements, les discours se sont radicalisés. Et qu'importe de savoir comment tout ça a commencé, pour ces réfugiés, c'est sur les autorités de Kiev que repose l'entière responsabilité de la situation. Pavel a demandé la nationalité russe. Il envisage de rester au moins temporairement en Russie.
Où pourrais-je bien rentrer? Rien ne fonctionne? Bien sûr, beaucoup aimeraient rentrer. Tout ce qu'ils possédaient est resté là-bas. Je vais chercher un travail ici où on a la chance d'avoir un toit et d'être nourri. Vous savez, nous les adultes, on pourrait peut-être rentrer, mais là-bas, il n'y a pas d'avenir pour les enfants.
Acquis à l'idée de la nouvelle Russie, Pavel assure que le divorce avec Kiev est irréversible.
On a dit que Yanukovych était coupable de tout, qu'on mettrait quelqu'un d'autre, pas un oligarque et pas un voleur. Et finalement, on a mis Poroshenko, qui répète qu'il est l'homme de la situation. Mais absolument rien n'a changé. On a juste une brochette d'imbéciles au pouvoir, des fascistes.
Depuis le début du conflit, des termes se sont imposés dans une guerre de l'information qui entretient la confusion sur la situation réelle. Ces réfugiés du Donbass disent être les victimes d'opérations destinées à les éliminer. Svetlana, une jeune mère de famille de Lugansk, en parle avec émotion.
J'ai beau avoir un passeport ukrainien, je ne me sens plus ukrainienne. Ayant un passeport ukrainien, vivant en Ukraine, née en URSS, je ne peux pas croire qu'on ait envoyé l'armée contre nous, contre la population russophone. Mes enfants se sont retrouvés dans la cave pour échapper aux tirs. Du côté de ma mère, mes grands-parents sont russes. Ils étaient 7 enfants, dont 4 garçons. Ils sont tous morts pendant la Seconde Guerre mondiale, aucun d'entre eux n'est revenu. Comment voulez-vous que je prenne la décision des autorités ukrainiennes d'annuler les célébrations du 9 mai, le jour de la victoire? C'est une trahison envers mes ancêtres.
La question des élections suscite un quiproquo révélateur. Les législatives ukrainiennes ne les concernent absolument pas. C'est le vote dans les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk qui vient aussitôt à l'esprit. La plupart des réfugiés assurent qu'ils voteront ce dimanche, là-bas ou depuis la Russie.
Symbole d'une identité commune retrouvée, le musée de l'histoire des Juifs de Pologne a ouvert ses portes cette semaine à Varsovie. Une communauté décimée par l'Holocauste et l'antisémitisme communiste, mais qui aujourd'hui fait entendre sa voix. Pauline, c'est le nom de ce musée, cela veut dire Pologne, mais aussi « Repose-toi ici » en hébreu. On écoute un extrait du grand reportage réalisé sur place par Maya Szymanowska.
Le musée d'histoire des Juifs polonais Pauline se dresse au milieu de l'ancien quartier juif de Varsovie. Sur les décombres du ghetto, c'est un nouveau quartier qui a été construit ici après-guerre. Et ce sont les voisins polonais qui furent les premiers à être conviés pour voir la nouvelle exposition permanente. Ils ont été nombreux à répondre à l'invitation.
C'est très beau, cette exposition retrace vraiment les 1000 ans d'histoire des Juifs polonais, comment ils se sont établis chez nous, les différentes vagues du peuplement. Cette histoire est vraiment nouvelle pour nous.
Le musée montre en effet les périodes fastes de la présence juive en Pologne, mais aussi les difficiles relations entre Juifs et Polonais, l'antisémitisme et bien sûr la Shoah. Piotr, un jeune architecte, ne cache pas son émotion à l'issue de la visite.
Après des siècles de relative opulence et de présence juive heureuse en Pologne, on arrive à l'époque de l'Holocauste. Ça ne rend pas très optimiste.
Longtemps passé sous silence, l'histoire des Juifs passionne aujourd'hui les jeunes Polonais, comme Zosia Mioduszewska, qui participe depuis 10 ans à des programmes éducatifs concernant l'histoire des Juifs en Pologne.
Ce changement vient avec la liberté, donc c'est vraiment les années 90 où on commence à s'intéresser à cette histoire, et aussi il y a cette histoire dans les manuels scolaires. Donc depuis 20 ans, il y a cette histoire aussi compris comme une sorte de... comme le chapitre de l'histoire polonaise.
Pour organiser la vie de cette communauté en pleine renaissance, de nombreuses associations voient le jour, comme le centre de la communauté juive, le JCC, qui vient de fêter son premier anniversaire. Agata Rakowiecka, la directrice du centre.
Très souvent, pour les Juifs des autres pays, la Pologne n'est qu'un cimetière, un lieu de mort lié uniquement au passé. Mais nous sommes là. Ce serait bien que les gens le sachent.
L'antisémitisme polonais n'est certes pas complètement éradiqué, mais la Pologne découvre avec de plus en plus de fascination l'histoire de ces Juifs. Une histoire qui n'appartient pas seulement au passé.
Un musée dont la façade de verre s'élève sur le terrain de l'ancien ghetto de Varsovie. Pour en parler, on retrouve Damien Simonard en Pologne. Ce musée très attendu, Damien, change aussi l'image de la capitale polonaise.
Oui, absolument, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme dit le directeur du musée, avant, le plus grand musée de l'histoire des Juifs en Pologne, c'était le vide. Il n'y avait rien. Nombreux sont d'ailleurs les touristes qui demandent où est le ghetto juif lorsqu'ils visitent Varsovie. Hors du ghetto, il ne reste que quelques parcelles de murs. Là, ce musée, dont l'architecture, au passage, est superbe, est situé en plein milieu du quartier juif. Ça va être une attraction touristique visitée par des centaines de milliers de personnes par an. D'ailleurs, ce qui distingue le musée de Varsovie d'autres musées juifs à travers le monde, c'est que la Shoah n'en est pas le thème principal. Le joyau de l'exposition, c'est une réplique à taille réelle du plafond d'une synagogue en bois du XVIIIe siècle, comme il n'en existe plus en Pologne. À noter que sur ce plafond recouvert de peinture, chaque dessin a été peint à la main en utilisant les méthodes du XVIe et du XVIIe siècle. C'est absolument magnifique. Et puis, la raison qui change l'image de ce musée à Varsovie, c'est qu'en Pologne, suite à la Shoah, il ne reste que quelques dizaines de milliers de Juifs et la plupart d'entre eux ne sont même pas au courant de leurs origines. Le but de ce musée à travers cette exposition complète et donc d'intéresser les Polonais eux-mêmes à cette histoire et de lutter contre l'antisémitisme, bien que celui-ci est moins fort en Pologne que dans d'autres pays européens.
Et pour les curieux, le site du musée Pauline, polin.pl.
Portrait.
La tempête Ebola n'est peut-être pas complètement terminée en Espagne. L'infirmière Teresa Romero, infectée par le virus, est guérie. Elle a pu quitter l'hôpital en début de semaine, ainsi que tous ses proches placés en observation. Mais son mari a d'ores et déjà indiqué qu'il allait poursuivre l'État pour négligence. Un combat qu'il mène désormais avec le frère de Teresa, José Ramón Romero, qu'on appelle le frère courage. Son portrait est signé François Musso.
Sur vêtements bleus, clé autour du cou, boucle d'oreilles noires, le crâne chauve et une barbe bien fournie, José Ramón Romero n'aurait bien sûr jamais pensé apparaître un jour dans les médias, encore moins s'entendre appeler frère courage. Frère cadet de Teresa, 40 ans, ce serait plutôt le genre de personnage discret d'une bourgade sans histoire, Alcorcón, une ville dortoir à l'ouest de Madrid. Mais voilà, avec l'infection de sa sœur, il est sorti de l'anonymat. On le voit un peu partout dans les journaux, sur les plateaux de télévision. Sa mission, c'est bien sûr de prendre la défense de sa sœur. Le responsable sanitaire de Madrid, Francisco Javier Rodriguez, l'a accusé d'avoir été infecté par sa faute à elle. Dans les médias, José Ramón Romero a explosé. Puisque sa sœur, isolée à l'hôpital, ne peut se défendre, il est devenu, lui, son avocat. Un avocat qui dénonce les autorités pour ne pas avoir su former les infirmiers vis-à-vis d'Ebola, pour ne pas avoir protégé sa sœur Teresa, pour ne pas avoir, comme aux États-Unis, reconnu leur tort. Aux yeux de José Ramón, c'est bien sa sœur qui est une victime de cette affaire, c'est l'État qui est en cause et qui n'a pas fait son travail. C'est aussi José Ramón qui a publiquement posé la question taboue. Si les autorités sanitaires ne sont pas capables de faire face au virus Ebola, pourquoi alors avoir cet été rapatrié d'Afrique les religieux contaminés Garcia Viejo et Pajares, car c'est bien l'un d'eux qui a infecté sa sœur. Du courage, José Ramón n'en manque pas, mais il a déjà payé les pots cassés sans qu'on sache quelle est sa profession. Il a affirmé avoir perdu son travail pour avoir osé se faire l'écho de l'indignation citoyenne.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook. À demain.